Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Ambiance feutrée, soirée dégustation de cigares, bibliothèque cosy, vous n'êtes pas en Outre-Manche, mais quelque part dans le Val-de-Loire, bourgeoisie de province, notables locaux, notaires, huissiers de justice, promoteurs immobiliers. Un club très fermé, d'amateurs de cigares, un fait divers, l'enlèvement d'une jeune fille, des questions, des non-dits, des apparences, des postures, des impressions, des suppositions, de fausses pistes. Une demande de rançon, une enquête difficile dans un microcosme provincial, un manoir d'un autre âge, de nombreux suspects, des rebondissements. Inexorablement, vous serez encerclé par les volutes de cette intrigue, vous humerez un parfum énigmatique et enfin, en fumée, quasiment kidnappé par un récit haletant, grâce à la maîtrise du suspense de Pascal Neuville, digne de son illustre collègue anglaise dans cette aventure d'Hippolyte Delay, Volutes kidnappées, paru en 2022. Bonjour Pascal Neuville.
Bonjour Philippe, merci de me recevoir.
Je salue nos fidèles auditeurs et je vous souhaite la bienvenue dans Parole d'auteur, qui se réjouit de vous recevoir. Première question, à laquelle vous ne devriez pas trop peiner à répondre. Je suppose que vous êtes un fumeur de cigares.
Absolument, oui, et depuis longtemps.
Depuis longtemps. Ça vous a pris comment?
Oh, vous savez, comme beaucoup de choses, c'est une question de rencontre. Plusieurs fois, j'ai assisté à des dégustations, mais je dis assisté en tant que spectateur. Et tout de suite, cette odeur particulière, ces fragrances particulières m'ont tout de suite plu. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que j'ai beaucoup entendu des gens qui ne fumant pas, ni la cigarette ni le cigare, disent « Ah, le cigare, ça pue !» Alors effectivement, on a tout à fait le droit de penser ça, mais je considère que c'est un peu subjectif. Moi, en l'occurrence, cette odeur m'a plu et j'ai essayé d'en savoir un peu plus. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, en l'occurrence un patron qui fume les cigares et qui m'a dit un jour, qui m'a proposé un jour d'essayer et qui m'a initié parce qu'en l'occurrence, il est, je pense, nécessaire d'avoir une initiation au cigare, un peu comme les grands vins. On ne boit pas tout de suite un Château Margaux sans avoir quelques explications, sans avoir le mode d'emploi en l'occurrence.
Alors on vous en demandera davantage un peu plus tard puisqu'on va profiter de vos compétences, mais avant vous pourriez nous dire quel est votre cigare préféré?
Oh là là, ça c'est très compliqué, ça c'est très difficile parce que ils sont extrêmement nombreux. D'abord, il y a évidemment les marques les plus connues comme Partagas, Roméo et Juliette et bien d'autres, mais effectivement j'ai deux cigares de référence immédiatement qui me viennent à l'esprit. C'est le D4 de Partagas et c'est le Épicure numéro 2 de Hoyo de Monterrey.
Très bien. Donc on y reviendra aussi puisque vous en citez beaucoup d'autres dans l'ouvrage. Alors pour que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, je rappelle que vous êtes diplômé de l'ESSEC. Vous avez fait une grande partie de votre carrière dans le milieu médical dont vous êtes inspiré pour votre premier roman.
Absolument.
Voilà, qui s'intitule
Homicide au bloc opératoire. Comme dit un de mes amis, l'avantage de ce livre, on n'a pas besoin de le lire, tout est dans le titre.
Voilà. Ce qui permet une compréhension accélérée. Et vous n'aviez pas écrit auparavant, c'était votre premier roman, votre premier ouvrage?
C'était mon premier roman, ce n'était pas mon premier ouvrage parce que j'avais écrit auparavant une biographie, celle de ma mère, aidée en cela par quelques écrits qu'elle m'avait laissés avant de partir. Et puis, un peu plus tard, j'ai écrit également de façon tout à fait présomptueuse une autre biographie parce que j'ai une vie assez remplie et m'est arrivé pas mal de choses assez particulières et j'ai eu envie de l'écrire. Comme je dis toujours, je voulais laisser des souvenirs à mes enfants que je n'aurais pas.
Avec, si je ne m'abuse, un intitulé de cette autobiographie particulier, puisque c'est Les petits oiseaux noirs.
Oui, absolument. Oui, parce que ça peut paraître, un peu négatif et un peu un peu noir en l'occurrence, mais en réalité ça ne l'est pas. L'idée c'était évidemment de mettre l'accent sur les choses difficiles qui me sont arrivées dans la vie, des accidents, des décès d'amis, des choses comme ça, des déceptions, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, voilà. Donc ça c'est tout le côté négatif, c'est tout le côté noir, mais je rassure éventuellement le lecteur, il y a quand même quelques phénomène heureux et quelques événements heureux dans ma vie, bien sûr.
Bon, j'en entends certains souffler, c'est bon. Donc, homicide au bloc opératoire, aujourd'hui, vous nous présentez Volute kidnappée. Depuis Volute kidnappée, je sais que vous en avez sorti un quatrième.
Oui, en l'occurrence, je suis en train d'écrire le sixième, donc cinq romans parus. Le premier, c'est donc, vous l'avez dit, homicide opératoire. Homicide au bloc opératoire, pardon. Le deuxième, c'est Volute kidnappée, celui dont on va parler aujourd'hui. Le troisième s'appelle Facsimilé, une histoire qui se déroule dans une université et particulièrement quelque chose d'assez particulier puisque l'histoire se déroule en 1973. Vous n'étiez pas né moi non plus et... Pourquoi vous souriez ? Et ensuite, il y a eu « Tu ne tueras point » et enfin, le dernier paru qui s'appelle « Vendange rouge sang » dont l'histoire se déroule à Pomerol dans les vignobles bordelais.
Et où il y aura une leçon d'œnologie sans doute.
Alors, je ne suis pas assez expert en la matière pour donner des leçons d'œnologie, mais il faut quand même savoir que quand on écrit un roman sur un thème un peu particulier, ce qu'est le cas des cigares ou ce qu'est le cas du vin, on a besoin de beaucoup d'informations et de recherches. Et pour Vendange rouge sang, j'ai eu le plaisir d'être reçu durant toute une journée dans un château à Pomerol qui s'appelle le château La Conseillante. Et ces gens-là m'ont reçu avec bienveillance. Et je leur ai expliqué pourquoi j'étais là, hein, bien entendu. Et ils m'ont simplement fait promettre de ne pas citer leur château dans l'histoire et de changer les noms, puisque évidemment les personnages, je me suis directement inspiré des personnages que j'ai rencontrés ce jour-là.
Alors, revenons à vos ouvrages et en particulier à votre choix d'écrire des romans policiers. Alors, ce sont des romans policiers, ce sont des polars, ce sont des thrillers. Comment les appellent vos ouvrages ?
Oui, vous avez raison de poser la question parce qu'on met souvent dans la catégorie polar, on met souvent des choses qui n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Je citais l'autre jour, je me suis promené dans un magasin, une grande librairie, et je regardais évidemment le département polar et j'avais des livres de Agatha Christie qui étaient tout à fait à côté des livres d'Harlan Coben. Si, pour ceux qui connaissent les deux, ça n'a pas grand-chose à voir. Peut-être qu'il y a un mort au milieu, un cadavre au milieu, mais c'est à peu près tout. Et moi, j'écris des enquêtes policières. C'est-à-dire que je m'attarde assez peu sur le crime en lui-même, crime qui n'est pas forcément de sang, d'ailleurs, ce qui est le cas dans celui dont on va parler aujourd'hui, Volute kidnappée. Et je m'attarde assez peu sur le crime pour pouvoir m'attarder beaucoup plus longuement sur l'enquête qui est menée par les enquêteurs et, en général, par un candide, quelqu'un qui, a priori, n'est pas fait pour ça, mais qui va se trouver à aider les enquêteurs à résoudre les enquêtes. Je veux parler de mon héros récurrent qui s'appelle Hippolyte Delay, et dont c'est la première apparition aujourd'hui dans Volute kidnappée.
Très bien. Donc, l'enquête est plus importante que le crime. C'est ça qui vous guide dans la construction de vos romans.
Absolument.
Très bien. Alors, inutile de vous demander, mais je vais quand même tenter, quel est votre auteur anglaise préférée.
Oui, je pense que là, pour le coup, je ne vais pas trop hésiter. Je pense que c'est Agatha Christie parce qu'elle a d'abord bercé mon enfance. J'ai été très tôt initié au roman policier au collège, grâce à un professeur qui aimait ça et qui nous l'a fait... passé. On a commencé avec les aventures d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc. Il faut dire qu'en l'occurrence, j'ai fait mes études à Rouen et Maurice Leblanc est rouennais. Mais dans la même veine, on avait tout de suite bifurqué vers Agatha Christie. Et là, c'est effectivement magnifique, quoi.
c'est l'exemple à suivre.
Ah oui, oui.
Ou un exemple d'inspiration.
Plutôt. Oui, absolument. Oui. C'est-à-dire que dans les romans d'Agatha Christie, il y a toujours une atmosphère particulière. Hein, vous vous souvenez de l'atmosphère de l'Orient Express, vous vous souvenez de l'atmosphère de l'île sur laquelle se déroule le roman qui a changé de nom récemment, hein, puisque maintenant il s'appelle Ils étaient 10. Il y a toujours une atmosphère, un endroit particulier. C'est quelque chose qui m'habite. En l'occurrence, mon premier roman se passe au bloc opératoire. Le deuxième, celui-là, dans un manoir. Le troisième, dans une université en 73. Le quatrième, dans un collège, un peu strict. Et le quatrième, dans un domaine viticole. Donc, vous voyez, ce sont des histoires. Bien sûr, ces histoires pourraient exister ailleurs, mais je pense qu'on perdrait l'essence même de l'atmosphère, de l'ambiance qu'il est, à mon avis, nécessaire de mettre en place pour séduire le lecteur.
Alors, dans le roman que vous nous présentez aujourd'hui, il est quand même évident qu'il y a beaucoup, une relation, une similitude avec les atmosphères créées par Agatha Christie. Il y a le manoir, il y a la bibliothèque, il y a le club de fumeurs de cigares aussi, très, très british. Il y a des épisodes où on se transmet des messages par des lettres qui arrivent ou qui n'arrivent pas, etc. Il y a quand même cette similitude.
Oui, absolument. C'est probablement le roman parmi les cinq que j'ai fait paraître qui se rapproche le plus effectivement des atmosphères d'Agatha Christie. Oui, ça m'habite, je peux pas l'éviter.
Alors j'ai compris que vous aviez une citation préférée sur la lecture qui définit un peu le roman donné par les frères Goncourt.
Le roman est une histoire qui aurait pu être vraie, c'est-à-dire que ce qu'ils voulaient dire, les deux frères, c'est qu'effectivement, tous les romans s'inspirent de faits réels. Il faut pas le romancier qui vous dirait le contraire serait un menteur. Il est évident qu'il a puisé dans ses rencontres, dans ses souvenirs, dans ses aventures lui-même, ses épisodes, et qu'il a au fil des transformations, qu'il a coucher sur le papier ces choses-là. Vous savez, il suffirait presque de changer des noms de personnes, des noms de villes, des lieux pour raconter une histoire à peu près exacte à la vérité. Parce que parfois, vous le savez, la vérité dépasse la fiction. Enfin, la réalité dépasse la fiction.
C'est clair, mais là, vous restez modeste parce qu'il faut quand même du lien dans tout ça.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il faut du lien, mais vous savez, moi, je ne suis pas un intellectuel. Je le confesse volontiers. Mais j'aime écrire et partant du principe que c'est en écrivant qu'on devient écrivain, comme que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je pense que au fil du temps, j'ai acquis effectivement certaines techniques, parce que vous savez, écrire un roman, c'est aussi une question de technique. Et en l'occurrence, je suis à peu près persuadé qu'avec de l'expérience, tout un chacun est capable de raconter une histoire. Et d'ailleurs, beaucoup de mes amis disent « toi, t'es pas un romancier, t'es plutôt un raconteur d'histoire ». Et ça me va bien, très franchement, ça me va bien parce que je n'ai pas, d'ambition autre que cela.
Très bien, bon, j'en profite pour faire remarquer à nos auditeurs que donc ils peuvent tenter leur chance dans l'écriture.
Absolument, très absolument.
Bien. Alors revenons à Hippolyte Delay. Hippolyte Delay, c'est votre héros récurrent. On va y venir très en détail dans les minutes qui suivent. Est-ce que un héros récurrent, c'est pas finalement un peu encombrant? Ou est-ce qu'un héros récurrent, c'est quelqu'un qui a peut-être une durée de vie limitée?
Oui, j'ai envie de vous dire les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que depuis le début, je considère qu'il a de toute façon une durée de vie limitée. Mais force est de constater que la limite est par définition indéfinie, parce qu'il est déjà dans sa cinquième aventure. Mais vous avez raison de dire qu'il est parfois encombrant, parce que parce que il est parfois difficile de le remettre en situation. C'est-à-dire qu'une situation se déroule, et l'idée c'est de dire comment je peux intégrer mon héros là-dedans, comment est-ce qu'il peut être concerné. Si on est sur des événements qui a priori n'ont rien à voir avec lui, la difficulté c'est de l'intégrer dedans. Et il faut l'intégrer si on veut avoir une cohérence dans le récit.
Alors j'ose à peine vous poser la question qui suit, à savoir de dire comment et pourquoi avez-vous choisi ce titre. Naturellement parce que l'atmosphère et ce que vous avez choisi, c'est le cadre notamment d'un club de fumeurs de cigares.
Oui, absolument. Ouais. Alors, je fais partie de deux clubs de fumeurs de cigares, mais je dois tout de suite dire aux lecteurs qui seraient intéressés par ce livre que les situations que je décris sont idéales. Et malheureusement, ça n'est pas toujours le cas dans les vrais clubs de cigares. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on est dans des conditions matérielles dans vos lieux de kidnappés qui sont merveilleuses. On est dans un manoir qui déjà à lui-même, en lui-même, est une merveille. La bibliothèque qui a été transformée par le propriétaire des lieux est spécialement équipée pour recevoir des fumeurs de cigares, c'est-à-dire que le plafond est équipé d'extracteurs de fumée, ce qui fait que on n'est pas dans une atmosphère, on n'est pas dans le fog anglais. Hein. Et puis le confort, oui, le confort. Je cite les fauteuils Chesterfield. Je ne sais pas si les auditeurs voient de quoi je parle. Il s'agit de ces fauteuils en cuir capitonnés, typiquement anglais, de préférence un peu usés pour qu'ils soient plus confortables. Et puis une petite musique de jazz qui nous berce les oreilles. Donc on est dans un confort, ce qui correspond assez bien à ce qu'est le cigare, puisque le cigare c'est le plaisir avant tout. Les fumeurs de cigares ne sont, j'en ai jamais rencontré, pas dépendants, à la différence des fumeurs de cigarettes. Et le fumeur de cigare commence par couper et allumer un cigare uniquement pour son plaisir. Et c'est effectivement, c'est quand on a la chance de fumer un cigare dans une atmosphère très confortable et avec très comment dire, avec des amis, avec une soirée qui se passe très bien. Je dis soirée parce que c'est souvent le soir. Ça ajoute au plaisir du cigare. Voilà. On est à l'inverse, à l'opposé de la cigarette qu'on va fumer très vite. Vous savez, dans les bureaux, on quitte le bureau, on descend sur le trottoir, on fume une cigarette vite, vite, vite et on remonte. C'est exactement l'inverse. Le cigare, c'est exactement l'inverse.
Donc, je dis aux auditeurs, si vous aimez le suspense à gogo, les histoires à la Agatha Christie, les ambiances chic et feutrées et un univers de style anglais, surtout, restez avec nous le temps de vous faire découvrir l'invité Stan Getz. Thank you.
d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Neuville pour son roman « Volute kidnappée », une aventure d'Hippolyte Delay parue en 2022 chez Book Ellis. Pascal Neuville, Stan Getz, Autumn Leaves, le choix était incontournable ?
Ah, quasiment, oui. J'aurais pu vous parler de Chet Baker ou de Dexter Gordon, mais en l'occurrence, Stan Getz reste... c'est un peu mon Agatha Christie littéraire. Stan Getz, le saxophone, je trouve, colle assez bien avec l'atmosphère feutrée. Chic et feutré, comme vous l'avez dit, des dégustations de cigares. Ouais.
D'accord. Alors, nous n'avons pas encore réussi à transformer le studio en coin de bibliothèque pour la dégustation de cigares, mais ça devrait venir. Alors, Pascal Neuville, on se plonge de manière plus précise dans ce roman. Quel est le contexte de départ ?
Le contexte de départ est une situation, encore une fois, un peu particulière, puisqu'il s'agit d'un club cigare, c'est-à-dire que mon héros, que l'on découvre à ce moment-là, qui s'appelle Hippolyte Delay, est un fumeur de cigares, je dirais amateur, au sens propre du terme. Hein. La définition du mot amateur, c'est quelqu'un qui aime. Donc il aime le cigare, mais il est parfaitement autodidacte. Et quand on lui propose de faire partie d'un club cigare où il pourrait apprendre un peu plus sur le cigare, bien sûr, il accepte. Et sa première surprise, bien que ça n'en soit pas tout à fait une, c'est de se retrouver avec tout ce que la ville, la petite ville de province où il habite, on se retrouve avec tout ce que la ville compte d'hommes. En l'occurrence, il n'y a que des hommes, d'hommes qui comptent. Et, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un notaire, il y a un huissier de justice, il y a le patron de la grande concession automobile, il y a un assureur, un banquier, tous des gens pour qui, a priori, la vie est douce. Et donc ça, c'est pour lui la première surprise. Mais, en l'occurrence, tout ça ne serait que très beau et très magnifique sans un fait divers qui s'est déroulé quelques jours auparavant, où une jeune fille a totalement disparu. Vous savez que c'est un peu d'actualité, hein, puisqu'il ne se passe pas un mois sans qu'à la télévision on nous parle d'une femme qui disparaît. Celle-ci a disparu, elle s'appelle Chloé Revert, et elle a disparu au sens propre du terme, c'est-à-dire que personne ne l'a plus revue, et on ne sait pas exactement, on ne sait pas du tout d'ailleurs, ce qu'elle est devenue. Donc évidemment, les discussions vont bon train sur ce sujet, chacun exprimant un peu son avis. Et puis au bout de quelques pages, on se demande si le maître des lieux, lui, n'est pas pour quelque chose dans cette histoire.
Donc on commence de cette façon-là. Vous nous conduisez vers un éventuel suspect. Et au fur et à mesure que le roman... se déroule, vous en rajoutez, puisque vous allez essayer de nous conduire vers d'autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à un seul suspect. Ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche, et je voulais vous demander si vous l'aviez fait de manière volontaire. C'est quand on commence à lire votre livre, la première date explicite et complète n'apparaît qu'en page 145. C'est-à-dire qu'auparavant, c'est des expressions du type « le jeudi suivant »,« le lendemain », etc. Donc je voulais savoir si c'était fait exprès, parce que quelque part, moi, la conséquence que ça a eu sur ma lecture, ça a été de dire « sois vigilant
». Oui, vous avez raison. Au départ, ça n'était pas volontaire, parce que... L'idée n'était pas de figer cette histoire dans le temps. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se dérouler il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Elle aurait même pu se dérouler dans le futur. Je ne suis pas persuadé que ça ne change grand-chose non plus. Et donc, je trouvais qu'il n'était pas forcément nécessaire de fixer les dates. C'est amusant ce que vous dites, parce que vous savez, quand je pense que la plupart des auteurs travaillent comme moi, mais moi j'ai ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, c'est-à-dire des gens qui relisent mes romans quand les romans sont terminés, et qui sont intransigeants sur ce qu'il y a dedans. Alors, ils sont très gentils avec moi, donc en général, il y a des choses bien, mais ils ne se gênent pas pour me dire, effectivement, il y a des choses qui ne vont pas. Et en particulier, les incohérences de date. Ça, c'est, pour un auteur, c'est dramatique. C'est-à-dire que, et pourtant, ça, on peut le laisser passer très facilement. On peut se fourvoyer dans une incohérence de jour, par exemple, dire c'était la veille alors que c'était pas la veille, c'était l'avant-veille, ou des dates plus précises. Donc, à la rigueur, moins il y a de dates dans le roman, et mieux c'est.
Je précise aux auditeurs et futurs lecteurs qu'il n'y a aucune incohérence de date, et qu'au contraire ça donne cet effet de j'ai trouvé moi de capter l'attention du lecteur. Alors on comprend que c'est dans le Val-de-Loire, et vous citez la ville qui est Calandreville.
Oui.
Et vous donnez une petite précision à 10 km de Camoussé.
Oui.
Alors naturellement j'ai foncé en direction de Google Maps. Et je me suis aperçu que c'était une grosse histoire.
Oui. En l'occurrence, effectivement, dans mes premiers romans, je situe toujours l'action dans des endroits imaginaires. Et là, en l'occurrence, le Val-de-Loire, j'aime bien en l'occurrence cette région. Je n'en suis pas originaire, mais j'aime bien cette région. Et j'ai trouvé que, sachant que l'histoire se déroulait dans un manoir, j'ai pas voulu aller jusqu'au château. Hein, les châteaux de la Loire. J'ai pas voulu aller jusque-là, mais en l'occurrence, un manoir, c'est une région dans laquelle il y en a bon nombre. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que c'était assez cohérent. Alors après, effectivement, le choix se portait sur l'endroit précis et est-ce qu'on peut citer une ville ou pas. J'ai pensé que c'était peut-être préférable de citer une ville imaginaire. Parce qu'en l'occurrence, ça n'avait pas grande importance et je ne voulais pas influencer le lecteur sur un endroit particulier. J'ai un de mes romans qui s'appelle « Tu ne tueras point » dont l'action se déroule à Toulouse, où là je cite particulièrement des rues, des places, des endroits où là le lecteur peut se retrouver. Là, c'est un choix délibéré de, effectivement, Calandreville et Camoussé, en l'occurrence, sont des noms de villes qui sont tout droit sortis de mon imagination.
Alors, juste pour votre information, j'ai trouvé un chemin de Camoussé près de Viscos dans les Hautes-Pyrénées, pas loin du Gave de Pau.
Très bien.
Alors, passons au personnage. Alors, le personnage principal, c'est Hippolyte Delay. Quel est son profil? Quelle est sa motivation pour s'insérer dans des enquêtes? Dans ce roman, on comprend très vite qu'il est sollicité, que lui, il n'a rien demandé, mais il a quand même une petite appétence.
Absolument, oui. Hippolyte Delay, c'est un gars tout à fait ordinaire. C'est pas péjoratif, mais c'est un gars, c'est un monsieur tout le monde. Je me souviens que lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai discuté avec un auteur confirmé qui m'a dit, tu sais, de toute façon, tes personnages, il ne faut pas qu'ils ressemblent à monsieur tout le monde. Il faut qu'ils soient, je me souviens de l'expression qu'il employait, il m'a dit, il faut qu'ils soient barrés, il faut qu'ils soient perchés, il faut qu'ils soient, faut qu'ils aient des tas de défauts et tout ça pour que ça intéresse le lecteur. J'ai bien écouté et j'ai fait exactement l'inverse, en l'occurrence avec Hippolyte Delay, puisqu'Hippolyte Delay, c'est un monsieur tout le monde qui, a priori, n'a pas beaucoup de défauts, il a même plutôt des qualités, et en l'occurrence, il a une qualité, c'est qu'il est extrêmement curieux. C'est, là aussi, ça n'est pas péjoratif, c'est qu'il s'intéresse à tout et à tout le monde, il a de l'empathie, il écoute, il observe, et parce que ce gars veut apprendre, et en l'occurrence, ça lui donne cette possibilité de porter des jugements ou des appréciations d'une façon peut-être plus objective que ne le ferait un enquêteur professionnel.
Est-ce qu'on peut dire que pour les personnages, les autres personnages de ce roman, ce sont aussi des monsieur tout le monde, entre guillemets, mais qui représentent bien la catégorie sociale ou socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent?
Oui, absolument. oui, absolument. Je crois qu'à un moment donné, je crois parce que je me souviens même plus ce que j'ai écrit, je crois qu'à un moment donné, Hippolyte Delay fait une digression en disant il y a des gens qui passent leur temps à être en représentation, c'est-à-dire qui jouent un rôle. Et quand on est effectivement dans des catégories socio-professionnelles élevées, on peut se poser la question assez souvent de savoir si ces gens-là jouent un rôle. Est-ce qu'ils sont intéressés? C'est souvent une question d'affaires, hein, de business. Est-ce qu'ils sont intéressés et par là même obligés de jouer un rôle pour se mettre en valeur? Là, en l'occurrence, j'ai effectivement grossi peut-être un peu le trait pour que ces gens-là se mettent en valeur et jouent un rôle, à la différence, en totale opposition avec Hippolyte Delay, qui lui, encore une fois, est un gars tout à fait normal. Vous savez qu'on avait eu un président normal. On a là aussi un gars normal qui, en l'occurrence, ne joue pas un rôle, qui avoue assez volontiers qu'il est... Il est néophyte en ce qui concerne le cigare et qu'il est là pour apprendre. Et pour le coup, il apprend vite, y compris dans les résolutions d'enquête.
Est-ce que son ami Sébastien de Groot, c'est un autoportrait?
Non. Non, non. Non, non, il n'y a pas d'autoportrait, mais y a quand même... effectivement, j'ai pensé à des gens quand j'ai écrit ça. J'ai en l'occurrence un ami qui porte pas du tout ce nom-là, mais qui pourrait lui ressembler. Oui, mais, oui, oui.
Parlez-nous un petit peu d'Antoine Lecornu, le notaire.
Oui.
Qui est un personnage important dans ce roman.
Absolument.
Et un personnage autour duquel tourne l'enquête, tourne les recherches et tourne les suspicions.
Oui, absolument. En réalité, je pense que Antoine Lecornu, le notaire, propriétaire du manoir, Maître Lecornu, notaire, Maître Lecornu et son manoir sont, de mon point de vue, indissociables. C'est-à-dire que le manoir fait partie intégrante du... Le manoir pourrait être un personnage, pardon. Et en l'occurrence, Lecornu sans son manoir n'est plus tout à fait Lecornu. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'aperçoit assez vite que ce monsieur... au demeurant fort sympathique, hein, puisqu'il reçoit tous ces gens, il est très jovial, mais il est aussi assez secret, c'est-à-dire qu'il cache volontiers des choses, et on va même découvrir quelque chose d'assez particulier dans ce manoir, qui encore une fois fait partie intégrante de l'histoire, et même un personnage à part entière. Et on va découvrir effectivement quelque chose de particulier dans ce manoir, dont Maître Lecornu aurait pu parler. Il ne l'a pas fait. On l'a découvert. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, évidemment, ça ajoute un peu au secret du personnage. Et on en connaît tous, des personnages comme ça, que l'on croit connaître, et qui, en l'occurrence, sont pleins de secrets, sont pleins de non-dits, sont pleins de... Et lorsqu'on les découvre, on est évidemment tout à fait surpris. Ce sera le cas d'Antoine Lecornu.
Alors, je précise pour les auditeurs qu'effectivement, le manoir peut être considéré comme le personnage principal et que le manoir ne va pas sans le notaire, effectivement. Alors, les ingrédients de ce roman, les thèses de fugue, de séquestration, le suspense, car pratiquement tout le monde est a priori peut être suspecté, des portes dissimulées, des lettres anonymes, des demandes de rançon, des idylles cachées, l'ingrédient parfait du polar british.
oui, encore une fois, je le confesse, je ne suis pas d'ailleurs certain d'en avoir eu conscience lorsque je l'ai écrit, mais comme je l'ai déjà dit, je suis imprégné de ces ambiances anglaises, et je trouvais que, comment dire, vous savez, quand on écrit, parfois on est dépassé par les choses, on est dépassé par un personnage, par exemple, lors d'un dialogue que l'on écrit, on fait dire des choses à un personnage, et puis parfois, le personnage dit des choses qu'on n'avait même pas imaginées. C'est-à-dire qu'on se laisse dépasser par le personnage, et on peut aussi se laisser dépasser par l'atmosphère, par l'ambiance. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que, au fil de l'écriture, j'ai trouvé que l'ambiance british, comme vous le dites, le manoir, la bibliothèque, les fauteuils confortables, cette impression de comment dire, de étrange de suspense. On a l'impression, quand on est assis dans un de ces fauteuils en train de déguster un cigare, qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas quoi exactement, mais il se passe quelque chose. Et j'ai trouvé que tout ça, collait assez bien. Mais si vous m'aviez posé la question avant que je commence le roman, je ne savais pas, que j'écrirais tout ça. Je connaissais évidemment le coupable. Je connaissais l'histoire, le crime, en l'occurrence un enlèvement, et le coupable. Mais ce qu'il y avait entre deux, je connaissais les personnages principaux, mais ce qu'il y avait entre deux, encore une fois, l'histoire, la façon dont il parle, dont il se justifie, les éventuels événements qui se déroulent, bah, tout cela n'est pas écrit. Ça vient au fur et à mesure.
Pascal Neuville, je vous propose d'accueillir votre prochain invité, Dexter Gordon.
Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours dans les volutes kidnappées qui nous sont offertes par Pascal Neuville, et nous avons donc découvert les personnages, quelques personnages de ce roman. Avant de revenir à un certain personnage, je voulais savoir si vous savez si Agatha Christie était une fan de jazz.
Ah, ça c'est une question piège. Je n'en suis pas certain. Et si c'était le cas, on ne serait pas dans la même, tout à fait dans la même configuration de jazz. Le jazz que moi j'aime, c'est celui de Chet Baker, de Dexter Gordon ou de Stan Getz. Je pense que Agatha Christie devait préférer, si elle écoutait du jazz, devait préférer un jazz beaucoup plus ancien et peut-être un petit peu plus typique, genre Nouvelle-Orléans ou choses comme ça.
Dans votre roman, il y a de nombreux personnages. Grosso modo, il y a quatre personnages principaux, dont Anne-Marie Lévesque, qui est l'employée de maison du notaire.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est cette personne, ce qu'elle fait, quel est son comportement.
Oui. Marie Davec, c'est une employée de maison, un petit peu comme on... Il en existait beaucoup au siècle dernier. J'aime bien dire au siècle dernier parce qu'on a l'impression que ça fait très vieux, mais ça ne l'est pas. Mais dans les grandes maisons bourgeoises, il y avait des employés de maison. Alors parfois, dans les très grandes maisons, il y avait des employés qui étaient chargés du ménage et d'autres de la cuisine. Et d'autres. Bon. Là, en l'occurrence, cette Anne-Marie Lévesque, elle fait un petit peu tout. C'est-à-dire qu'elle fait la cuisine, elle fait le ménage, elle fait l'entretien du manoir. Et puis elle aide également Maître Le Cornu, qui est un célibataire endurci et qui, je dirais que pour toute l'intendance, pour toutes les questions pratiques, il s'en remet à elle. Il faut noter que Maître Le Cornu est un notaire qui lui-même a succédé à son père, qui lui-même était notaire. Et cette Anne-Marie Lévesque était déjà au service de Maître Le Cornu père. Donc c'est pour vous dire que elle a connu Antoine Le Cornu, ils avaient à peu près le même âge, hein, mais elle est entrée au service de cette famille, elle était très jeune, une vingtaine d'années, et elle a connu Antoine Le Cornu qui avait à peu près le même âge. Donc c'est pour vous dire que ces deux personnages-là se sont suivis avec évidemment une différence de catégorie sociale énorme, hein, on est bien d'accord, mais c'est intéressant parce que on verra assez vite que cette dame a un avis pas toujours excessivement gentil vis-à-vis de son patron.
Nous n'en dirons pas plus.
Non.
Alors j'ai une question que l'on pourrait qualifier de question technique et que j'aime bien poser aux auteurs de romans, c'est la manière de choisir les noms et les prénoms des personnages.
Oui. Ah, y a pas... En l'occurrence, je vais vous répondre en ce qui concerne celui-là, en ce qui concerne Voler kidnappé, il n'y a pas de méthode particulière. J'ai fait simplement appel à mon imagination et à ma mémoire. J'ai rencontré des gens qui portaient ces noms-là, il y a déjà très longtemps. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'une situation un peu particulière, et en particulier des questions régionalistes, là, il est important de faire appel à des noms de famille qui sont typiquement régionalistes. Dans le roman que j'ai écrit, dont l'action se déroule à Toulouse, j'ai cherché des noms typiquement toulousains, typiquement du sud-ouest, des Vidal, des gens comme ça. Et ça, c'est important parce que il faut que ce soit quand même un peu cohérent. Dans le livre qui nous intéresse, l'action se déroule sur les Val-de-Loire. Et le Val-de-Loire, c'est une région assez particulière parce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup de noms spécifiques du Val-de-Loire, c'est-à-dire qu'il y a des Leblanc, il y a des gens comme ça, enfin des noms comme ça qui sont tout à fait, qui pourraient être de cette région et d'autres. Mais il y a une autre caractéristique dans la région de Val-de-Loire, c'est, paraît-il, la seule région où il n'y a pas d'accent. C'est-à-dire les gens parlent avec soi-disant la meilleure façon de parler, la meilleure diction, sans accent. Et ces gens-là seraient, paraît-il, tout à fait fait capables d'être compris par des étrangers qui apprendraient le français. Imaginez un Anglais ou un Américain qui débarque à Marseille ou qui débarque à Lille, s'il commence à essayer de comprendre ce qu'on lui dit, il va avoir quelques surprises quand même, hein, vous voyez ce que je veux dire.
Parce qu'à une ville, vous réalisez, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous mettre à dos les auditeurs, les lecteurs du sud de la France.
Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que il y a des particularismes en France, on le sait, mais je trouve qu'on le sait pas assez. Et moi, je me mets souvent dans la peau d'un étranger qui arrive en France Vous allez me dire, la situation est à peu près la même aux États-Unis, par exemple, entre l'Est et l'Ouest.
Et quand on voit arriver et qu'on essaye de comprendre un Texan, par exemple.
Exactement. Mais en l'occurrence, la région Val-de-Loire, ça je l'ai appris en écrivant ce livre, la région Val-de-Loire est celle dont les habitants, en principe, parlent le français le plus parfait, sans accent. Alors, parfait, c'est pas parce qu'on n'a pas d'accent que le français est parfait, hein. Ils peuvent, comme tout le monde, faire des fautes de syntaxe, sans aucun doute.
Je vous propose que nous revenions un petit peu au monde du cigare.
Oui.
Parce que j'ai d'autres questions à vous poser. Alors, vous définissez, vous l'écrivez dans votre livre, le cigare se définit en un seul mot, le plaisir. Alors, quel est le profil du vrai fumeur de cigare ?
Le vrai fumeur de cigare, de mon point de vue, c'est vérifié dans la majorité des cas, n'est pas un fumeur de cigarettes. La plupart du temps, ça n'est même pas un ex-fumeur de cigarettes. On a quelques amis qui fumaient la cigarette, à qui on a demandé d'arrêter la cigarette. Ils se sont arrêtés il y a déjà plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et lorsqu'ils veulent se mettre à fumer le cigare, ils n'apprécient pas forcément. Le cigare, c'est quelque chose, c'est un art, puisque le sigle de notre club cigare qui s'appelle le MCC, Monkey Cigar Club, c'est l'art d'en fumer. Vous voyez, donc c'est un art, c'est-à-dire que, comme tous les arts, il faut prendre son temps. Et en l'occurrence, pour fumer un cigare, il faut avoir devant soi 30 à 45 minutes minimum, et surtout ne pas se précipiter pour pouvoir déguster, sachant qu'un cigare n'a pas forcément les mêmes saveurs au début et à la fin, et il faut donc prendre son temps. Donc le fumeur de cigares, c'est quelqu'un qui prend son temps, qui veut prendre du plaisir, qui est là pour déguster, tout en sachant que, évidemment, de temps à autre, on peut fumer un cigare qui ne nous plaît pas.
Vous donnez une belle leçon de cigare, finalement, dans votre roman. Là, j'ai encadré le petit texte que je vais vous demander de lire.
Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah, commençons par examiner la cape. Est-elle fissurée ? Est-elle ornée de déchirures ? Ou est-elle intacte ? Sa couleur est-elle plutôt claire ou foncée ? Est-elle mate, brillante, huileuse, grasse, poussiéreuse ? Utilisons le toucher. Quelle sensation ? Mou, moyen, dur ? Puis, après avoir réalisé la coupe du cigare, comment estimons-nous le tirage accru ? Est-il facile ou difficile ? Alors, j'ai un petit astérisque au sujet du tirage accru. Pour les gens qui ne savent pas exactement de quoi il est question, le tirage accru, c'est une technique utilisée lors de la dégustation d'un cigare afin d'avoir une première idée de ses arômes et de la qualité de son tirage avant de l'avoir allumé. Comme si vous preniez une cigarette et que vous tiriez dessus sans l'avoir allumé. Vous allez me dire ça, avec une cigarette, c'est complètement ridicule. Ça l'est beaucoup moins avec un cigare, parce que d'ores et déjà, même sans l'avoir allumé, vous pouvez avoir une idée de ses arômes.
Donc je précise aux auditeurs, s'ils veulent avoir plus de détails sur l'art et la manière de fumer, c'est le bon ouvrage. Alors, autre passion, autre thème bien développé dans ce livre, dans ce roman, c'est le rapport au livre. Alors, le rapport au livre d'Hippolyte Delay, c'est un rapport particulier. Je vous cite, pour la beauté de l'objet, tendresse pour les livres, j'aime les regarder, les effleurer, les toucher, les parcourir et les admirer. Je me posais la question si Hippolyte lisait.
Oui, Hippolyte lit. C'est dur à dire ça, c'est difficile à dire. Oui, Hippolyte lit, mais je ne me suis pas étendu sur ses lectures. Peut-être que j'y viendrai, vous avez raison de poser la question. C'est un lecteur, mais vous savez, comme beaucoup de gens, c'est quelqu'un qui travaille. Il est patron d'une agence immobilière, il a beaucoup de travail, et par définition, il a peu de temps. Et surtout aujourd'hui où la communication d'une manière générale, qu'elle soit télévisuelle, avec les smartphones ou autres, l'information on l'a, et si vraiment on veut lire, et il faut échapper à cette information obsédante et omniprésente pour pouvoir se plonger dans les grands auteurs. Ce serait ça, la vraie lecture, ce serait ça. Mais en l'occurrence, oui, Hippolyte est un lecteur. Vous savez que j'ai un ami qui me dit tout le temps, Hippolyte Delay, c'est toi. Non, Hippolyte Delay, c'est pas moi, mais il est évident que je me sers beaucoup de moi et de mes goûts et de ce que je n'aime pas pour affubler Hippolyte Delay de ses qualités et de ses défauts, qui sont les miens.
Donc, chers auditeurs, si vous souhaitez découvrir ce qui se trouve derrière les volutes kidnappées, je vous recommande naturellement Volutes kidnappées, une aventure d'Hippolyte Delay, parue en 2022 chez Bookalis, et écrit avec brio par Pascal Neuville. Et je signale aussi que le lecteur n'a absolument pas besoin d'être fumeur de cigares,
non,
n'est-ce pas ?
Non, absolument pas. Et en vertu de la loi Evin, je ne fais absolument pas l'apologie du tabac, ni du cigare, ni de la cigarette, évidemment.
Mille merci, Pascal Neuville.
Merci, Philippe.
Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Yannick à la technique. Au revoir à tous et bonne lecture.